Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti.
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver. On a l'équipe complète avec nous. Nicolas, Richard est de retour avec nous. On est très content de te revoir, Nico. Tu nous as manqué dans les derniers jours. Alors, d'abord et avant tout, je te demande comment ça va, mon beau Nico?
Ça va bien, week-end assez spécial, semaine faste. Et avant d'aller plus loin, je tenais quand même à vous lancer des fleurs, messieurs, à toute l'équipe, là, Sarah qui est derrière aussi, Abraham, Nico. Quel travail colossal au cours de la dernière semaine. J'ai dû m'absenter pour des raisons personnelles au cours du week-end. Mais je vous ai écouté, j'ai écouté chaque émission, chaque entrevue d'une pertinence inébranlable. Ça a été vraiment extraordinaire comme semaine pour nous, qui est le podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale, je trouve. Qu'on s'est vraiment établi comme étant, et je ne dis pas ça pour être chauvin, là, je parle vraiment par émotion, par ce que je ressens, je pense qu'on s'est vraiment établi comme étant la référence tennistique en termes de balado-diffusion et de radio-diffusion au Québec, au Canada aussi, de plus en plus, Hong Kong aussi notamment. Donc, chapeau à toute l'équipe, c'était une belle semaine, puis je pense qu'on doit se lever notre chapeau parce qu'on a fait de l'excellent boulot, je pense, et je suis d'avis que plusieurs auditeurs seront d'accord avec moi.
Ben garde, avant que je salue officiellement Hugues et que j'explique pourquoi on est à l'Hôtel Montville, puisqu'on y est, garde, je vais rentrer les autres membres de l'équipe que les gens ont pu connaître un petit peu plus. Et je vais commencer par Sarah Jade, Abraham et Nico, si vous ouvrez ta caméra. Mais voilà. Sarah Jade, ça a été, si on veut, notre directrice des médias sociaux durant l'Omnium Banque Nationale. C'est elle qui a développé la stratégie, les modèles de diffusion aussi pour les résultats, etc. Elle a fait un travail. Merci beaucoup, Sarah Jade. Merci aussi d'avoir embarqué dans le projet avec nous. Tu as été super gentil. Et merci à Nico et Abraham qui ont fait un travail absolument exceptionnel, les gars, pendant l'Omnium Banque Nationale. Vous étiez sur le gun. J'ai appris des nouvelles avec notre propre média social. Des fois, vous aviez le score avant même que j'ai vu le point de match. Ouais. Puis c'était publié. Merci les gars d'avoir ruiné mon plaisir sur certains matchs, mais vous avez fait un excellent travail. Alors Nicolas, Abraham et Sarah Jade, au nom de toute l'équipe, merci infiniment. Merci d'embarquer dans le projet. Et ce n'est qu'un début. Alors voilà, salutations d'usage faites. Et Hugues, ben, je te salue à nouveau. Nous sommes les deux ensemble à l'Hôtel Montville, qui tranquillement est en train de devenir notre camp de base pour la diffusion de l'Omnium Banque Nationale. Pourquoi est-ce qu'on est au Montville aujourd'hui?
Je dirais même plus notre quartier général. Bien, on est au Montville à chaque semaine. On collabore avec eux sur plusieurs projets, notamment le podcast. C'est un hôtel qui s'établit comme un lieu de performance, de captation et de diffusion dans plein de secteurs. Pour le sport, la culture, l'événementiel. Donc, c'est un hôtel qu'on va voir de plus en plus. C'est un très, très bel hôtel sur la rue Bleury, près du Palais des Congrès, dans le quartier international. Donc, on vous invite à venir découvrir le Montville.
Et justement, ben, c'est le premier partenaire qui nous a fait confiance à l'Omnium Banque Nationale et c'est encore un projet très jeune. Alors, d'avoir un partenaire de cette ampleur-là dans un projet aussi jeune, c'est significatif. Et ben, puisqu'ils sont nos partenaires, on leur offre une certaine visibilité. Alors, je vous annonce qu'en réservant une nuit à l'Hôtel Montville, vous allez profiter d'un laissez-passer à Montréal offrant des rabais exclusifs chez nos partenaires qui sont notamment SOS Labyrinthe, le Centre Phi, le Musée des Beaux-Arts. Vous avez accès aussi à la location de scooters D-Wild, à la Tyrolienne Montréal Zipline et bien d'autres éléments encore. Le 16 septembre sera la date de la soirée de lancement de la nouvelle terrasse de l'Hôtel Montville en vue imprenable sur Montréal. Un nouveau menu, un tout nouveau décor et bien plus encore vous attend. Merci à tous de nous supporter et merci à l'Hôtel Montville de nous supporter. Voilà, Hugues, la promo, elle est faite. C'était quand même pas si mal pour quelque chose qui était lu en direct.
Bien fait, bravo. Et je vous dis, la terrasse sur le toit est de toute beauté. C'est sublime. Ça va être un des plus beaux endroits à Montréal pour prendre l'apéro, pour faire des événements et tout ça. Donc, venez nous voir le 16 septembre.
Alors, sautons dans le vif du sujet, messieurs, parce que, bon, on est le podcast, l'émission de radio diffusée au 91.9 également, officielle de l'Omnium Banque Nationale. Ça a été notre semaine la plus occupée, comme tu le disais, Nico, en introduction. Il y aura possiblement un avant et un après Omnium Banque Nationale pour le podcast sur la ligne. Ça a été une grosse semaine pour nous. On a fait toute une couverture et ça a été une grosse semaine pour... Camilla Giorgi, messieurs, qui a remporté le tournoi. Commençons avec Camilla Giorgi. On a fait nos prédictions. Personne n'avait prédit ça. Nico, tu n'avais pas prédit ça, toi?
Non, je n'avais pas prédit ça.
Tu avais prédit qui?
Je l'avais prédit, en fait.
Peux-tu nous rappeler ta finale, Nico, s'il te plaît?
Je vous entends mal. Hugues?
Tu t'en es bien sorti, Nico. On va passer l'éponge sur celle-là. C'est plus facile quand t'animes de lancer quelqu'un en dessous du boss que quand t'es collaborateur. Et voilà, ben ça a été assez exceptionnel pour Camilla Giorgi, messieurs. Comment voir cette victoire-là, Hugues? Je commence avec toi.
Je pense que Sylvain Bruno nous l'a bien résumé quand on y a parlé il y a quelques jours. C'est une joueuse de très, très grand talent, qui joue au-dessus de son niveau de classement 71, d'ailleurs qui va monter d'une quinzaine de places cette semaine. Mais c'est une joueuse extrêmement intense, au niveau d'énergie. Et la différence cette semaine, c'est qu'elle n'a pas fait d'erreur. Elle fait beaucoup d'erreurs habituellement. Elle a un jeu qu'on appelle « make or break », là, ça marche ou ça marche pas. Cette semaine, ça a bien marché. Donc, je pense qu'elle a fait des ajustements à son jeu. Elle disait qu'elle travaillait avec son père. Elle ralentit un peu à certains moments, parce qu'avant, elle allait peut-être un peu trop vite. Donc, son niveau d'énergie était juste trop élevé pour tous ses adversaires, incluant Pliskova en finale. C'est une belle gagnante inattendue qu'on a à Montréal.
Elle a été, on l'a d'une certaine manière découvert. Moi, je, en toute humilité, je ne savais pas qu'elle parlait français. Je ne sais pas si vous, les gars, vous le saviez, si vous aviez écouté des conférences de presse à Roland-Garros, par exemple. Je ne savais pas qu'elle avait fait, qu'elle parlait un français aussi bien. Et justement, messieurs, je vous propose de l'écouter. Elle a parlé en français en conférence de presse. Voici ce que ça a donné. C'est une clip rapide.
Ben, c'est très important. Je crois que les choses viennent à un moment donné. Ça ne doit pas forcer les choses, pas du tout. Je crois seulement que ça devait arriver parce que j'étais en train de jouer vraiment bien. Ça fait des mois déjà. Donc voilà, ça, c'était incroyable. Merci.
Alors, intéressant d'entendre parler Camilla Giorgi avec un aussi bon français, messieurs. Et elle disait, ben, je m'attendais quand même à ce que ça arrive éventuellement parce que je jouais très bien récemment et avec raison. Et Pliskova, c'était peut-être l'adversaire rêvé pour elle en demi-finale, en dépit du fait que c'est une fille qui a un des meilleurs services sur le circuit de la WTA et qui est revenue dans le top 5 et qui est une ancienne numéro 1 mondiale. Elle l'avait quand même battue deux fois récemment, dont aux Jeux olympiques il y a à peine quelques semaines. Alors Nico, c'était presque, même si Pliskova était favorite sur papier, c'était presque une adversaire rêvée pour Giorgi, hein.
Ben oui, mais tu vois, à ce stade-ci de la compétition, je suis d'avis que Giorgi aurait pu battre à peu près n'importe qui. Ouais. Dans la mesure où son jeu était tellement à point, tellement précis, elle était elle-même tellement confiante que ça aurait été Sabalenka, que ça aurait été Pliskova, que ça aurait été Svitolina. Je suis pas mal d'avis que Giorgi n'aurait pas eu peur d'aucune de ses têtes de série et qu'on aurait eu droit à un bon match, probablement aussi à une victoire de Giorgi.
Alors, toi, tu penses qu'elle a atteint un autre niveau et que rapidement, elle va se retrouver parmi les meilleurs au monde. C'est ce que tu dis, là. Et ce que tu dis, c'est ce qu'elle a dit en conférence de presse en anglais également, là. C'est-à-dire qu'elle a changé certains éléments au niveau tactique, au niveau stratégique également. C'est une fille qui retourne super bien. On l'a vu, là. Tu ne peux pas retourner mieux que contre une fille que Pliskova, qui a un service de feu. Et j'entendais Marie-Ève Pelletier dire aussi qu'elle génère beaucoup de puissance malgré son petit gabarit. Alors, toi, tu penses, là, Nico, que c'est la grande année d'éclosion malgré tout à 29 ans pour Giorgi?
Je ne sais pas si c'est la grande année d'éclosion. Ce que je sais, c'est que très certainement, elle aura un classement qui est plus fiable au niveau de jeu qu'elle est capable de jouer. Comme Hugues l'a dit, elle joue au-dessus de son classement. Et tu parles du service de Pliskova, mais le service de Giorgi tout au long de la semaine a été incroyable. C'est une fille qui n'est pas très grande, on l'a dit, on l'a répété à maintes reprises, mais elle génère, comme tu l'as dit, tellement de puissance. Et il y a un aspect technique là, pour ceux qui ont déjà joué au tennis. Georgie lance la balle très, très haut, ce qui lui donne beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'elle va faire. Ça lui permet de générer beaucoup de puissance. Par exemple, des joueurs comme Nadal qui ne lance pas la balle très, très haut, c'est plus réactif, c'est plus une impulsion, c'est plus... Tandis que Georgie, lorsque des joueurs comme ça lancent la balle très haut, comme Raonic par ailleurs, ils ont le temps de réfléchir et de placer leur balle. Donc, je pense qu'elle compense beaucoup sa petite taille par ce genre de mini-stratégie. Vous en faisiez mention, c'est une fille extrêmement stratégique qui a su s'adapter au cours de la semaine, au cours des derniers mois. Et ça en est un exemple flagrant, je trouve, de la qualité du jeu de l'Italien.
Et Hugues, ça a pas été, comment dire, un tournoi où ça a été facile pour elle. Là, quand tu bats des filles comme Johanna Konta, Pegula, Coco Gauff, plusieurs la voyaient, dont moi, en finale à Wimbledon. Alors, c'est un des plus bels espoirs sur le circuit de la WTA. Oui. Et puis, de ses 17 ans, elle est déjà classée parmi les meilleurs au monde. C'est pas comme si elle avait eu un parcours facile et qu'elle s'était ramassée là par chance d'une certaine
manière. Ah non, c'est 100% mérité. Puis je le répète, son niveau d'intensité a fait mal à tous ses adversaires durant la semaine. Elle ne ratait pas. Elle frappe la balle très, très tôt. Et on parlait un peu de sa stature. Elle est quand même très musclée. Elle n'a pas une grosse charpente comme plusieurs des autres joueurs. On regardait à côté de Pliskova hier, notamment. Mais elle est en vraiment super forme. Et quand son jeu est « on », comme il était toute la semaine, et qu'elle frappe tôt sur la balle comme ça, personne n'a pu rivaliser avec elle cette semaine. Écoute, puis c'est un score quand même assez dominant, là, un 6-3, 6-4 en finale. Donc, chapeau. Bravo à Camilla Giorgi. Belle gagnante encore une fois.
Oui, ça a été. On m'a demandé plutôt à la radio cette semaine, parce que bon, Nico, tu as été comme moi aussi, tu as été en onde beaucoup à la radio cette semaine, et puis. On m'a demandé, y a-tu quelque chose de spécial par rapport à ce tournoi-là? Puis je dis, tu sais, oui, il y a une certaine magie à Montréal. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis je sais que ça fait bizarre parce que c'est notre tournoi national, mais je veux dire, je le suis l'année, le tennis à l'année longue. Et pour vrai, j'ai cette impression-là qu'il y a toujours un peu de magie qui se passe. Et cette année, cette magie-là, c'était Rebecca Marino, c'était Camilla Giorgi qui, à 30 ans ou presque, là, remporte son premier titre. Et messieurs, ça n'a pas été la seule magie parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup cette semaine. À mon grand regret, et c'est de ma faute, parce que c'est moi qui s'occupais des plans de match. Alors, je vais faire meilleur coup de pas là-dessus. Mais il y avait une Canadienne qui a été tout feu, tout flamme. Son nom, c'est Gabriela Dabrowski, messieurs. Elle a porté le drapeau du Canada jusqu'à la victoire en double. C'est une des meilleures joueuses de double au monde. C'est une des meilleures joueuses de tennis au monde, en tout cas en double, certainement. Je vous propose qu'on l'écoute parce qu'elle est championne avec sa partenaire. J'ai sorti quelques clips et on va parler de sa performance par la suite.
I'm happy. Yeah, we're really happy. I guess I'll start match-wise. I think we learned a lot from last week's final, and we were able to implement the strategic changes that I thought were necessary to turn the match in our favor, and we did that really well. So I think I'm most happy about that today. In a way, yeah. I mean, I used to probably average one title a year, and so to have a small drought was a little bit frustrating, only because I came very close a few times. So yeah, but it's okay because that's tennis, and sometimes your opponents play better than you and they're smarter than you, and then doesn't go your way, and that doesn't mean that you're doing anything necessarily very wrong. It's just that your time hasn't yet come. So I'm just glad that we had a win today. And you know, I guess stop the drought. Oh, it was lovely. Yeah, it was so nice to play in front of Canadian tennis fans. It's as close as a home tournament as I'm ever gonna get because we don't have any in Ottawa. So I really enjoyed my time out there, especially last night and tonight where we played on center that had fans. So it was fun.
Alors, messieurs, Gabriela Dabrowski qui parlait avec un grand sourire tout le long de sa conférence de presse, elle n'allait pas penser que c'était quelque chose de particulier à sa victoire. Là, elle a parlé comme ça toute la semaine. C'est une fille hyper souriante. Et là, je veux qu'on y donne de l'attention pour la peine parce que justement, c'est une grande joueuse de tennis présentement, une des meilleures joueuses de double sur le circuit et elle est championne dans son tournoi national avec sa partenaire brésilienne. D'ailleurs, ils ont annoncé dans cette conférence de presse-là qu'ils allaient jouer ensemble jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce que ça veut dire jouer ensemble jusqu'à la fin de la saison? On verra parce qu'il y a une partie de la tournée en Asie là, qui est annulée. Est-ce que ça veut dire jusqu'à la fin du US Open ou à peu près, là, peut-être les finales WTA, on verra. Mais Hugues, je te lance, victoire importante pour le Canada quand même.
Moi, j'étais tellement content. Ben, on a une championne canadienne à Montréal, ça fait super plaisir. Je la voyais avec son sweat de l'équipe olympique en conférence de presse, ça faisait plaisir. Puis c'est un peu une rédemption. On pensait qu'on avait une chance de médaille avec notre paire de double, Fishman-Dabrowski, aux Olympiques, ce qui s'est pas arrivé malheureusement. Mais là, elle revient en Amérique du Nord, elle gagne à Montréal. C'est une super nouvelle. On est vraiment content.
Nico, tu vois ça comment, cette victoire-là? On a parlé beaucoup de Bianca et de Rebecca, puis finalement, c'est Gabriella qui est arrivée.
Bien, au-delà d'être bon pour elle, je pense que c'est bon pour le double en général. De plus en plus, chez Tennis Québec, chez Tennis Canada, j'ai été dans le programme, je le sais, on mise beaucoup, de plus en plus, du moins sur le double. Habituellement, avant d'aller dans des compétitions, dans des tournois d'importance en simple, on y va d'abord en double pour comprendre le jeu, pour comprendre les stratégies, pour se développer, que ce soit au service, que ce soit à la volée. Et le double, on le dit souvent au podcast, n'est pas assez mis en valeur. Et là, avec une championne canadienne, j'espère qu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont dire « Hey, jouer en double, c'est pas une punition. Jouer en double, c'est pas moins le fun. C'est juste un apprentissage. C'est juste une autre manière de pratiquer ce sport-là qui est formidable. » Donc, ouais. Pour la notoriété de ce sport-là, mais de cette discipline qu'est le double, tant mieux, tant mieux.
Ah, tu fais tellement bien de le souligner, Nico, parce que on l'a dit à quelques reprises à l'émission, le double, c'est spectaculaire. Si vous n'avez jamais assisté à un match de double, ça va vite, les coups sont spectaculaires, ça vaut vraiment la peine. Et c'est un set de skills, entre guillemets, qui est différent.
Ouais, oui, ça veut dire. Ah, ben, j'allais dire, on parle souvent des plus grands joueurs canadiens de l'histoire de tennis. On parle beaucoup de plus en plus de Félix, de Dennis, mais dans mon livre à moi, Daniel Nestor est en haut de la liste.
Mais ben, non seulement ça,
et de juste, c'est un joueur de double.
Il est, à mon avis, à moi, et ça se défend, là, un des plus grands de l'histoire du tennis. Point final. Il rentre dans la catégorie des Federer, des Nadal, des Djokovic. Bon, en double, c'est pas compliqué, là. Dites-moi là si je me trompe, mais je pense qu'il y a les frères Bryan et tout de suite après, c'est Daniel Nestor. Ouais. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il va être délogé un jour? Peut-être, mais il fait partie des grands de l'histoire du tennis et c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du tennis méconnu. Évidemment, on le connaît au Canada, mais d'après moi, je sais pas, aller voir un partisan...
au Brésil.
Quoi, là, au Brésil ou en France, un partisan casual de tennis, un partisan, celui qui regarde Roland Garros, mais qui ne regardera peut-être pas tous les tournois. Je ne suis pas sûr tant que ça qu'il connaît Daniel Nestor, alors que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Il faut le reconnaître comme ça. Et d'ailleurs, quand il a repris sa retraite, Federer était dans les gens qui avaient souligné sa retraite pour la vidéo de l'ATP. Ça vous donne une idée de l'importance que les autres joueurs de tennis peuvent vous donner. Alors, chapeau à Gabriella Dabrowski. Je m'excuse, Gabriella, qu'on n'ait pas parlé plus de toi. On en a parlé un petit peu, là, mais pas suffisamment. Mais à coup de pas, on a fait une demande d'entrevue pour lui parler. On attend des nouvelles. On va essayer de lui parler plus tôt que plus tard. Évidemment, pendant la saison, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on va l'avoir à l'Omnium Banque Nationale, à l'émission officielle de l'Omnium Banque Nationale. Et Valérie Tétrou me disait que c'est une des filles les plus sympathiques à interviewer. Et j'ai pas de misère à le croire. Messieurs, avant qu'on passe aux hommes, je veux qu'on revienne sur le bilan rapidement de ce tournoi-là parce que Eugène Lapierre a fait son bilan. Ce qu'on a appris dans ce bilan-là, c'est que l'Omnium Banque Nationale devrait arriver kiff-kiff au niveau des finances, qui est une excellente nouvelle parce que Hugues, le tournoi a perdu beaucoup d'argent en ne présentant pas d'édition l'an passé.
Oui, c'était une perte de 10 millions l'an passé. Et s'ils font break-even cette année avec une moyenne de 3500 spectateurs environ, c'est une réussite en soi. Donc, moi, je suis vraiment heureux d'entendre cette nouvelle-là dans le bilan d'Eugène. Le support prolongé de la Banque nationale pour 10 ans donne un peu plus de confort dans la gestion des opérations et le développement du tennis. Oublions pas les programmes juniors, les challengers et tout ça. C'est beaucoup la Banque nationale qui est derrière ça. Mais un break-even pour les opérations, avec un tournoi qui a été, somme toute, de toute beauté. Évidemment, il n'y avait pas la marquise avec les boutiques. Au niveau de la restauration, c'était moins élaboré que d'habitude. Il y avait un service au siège qui marchait très bien. Mais le tournoi a été à la hauteur de nos attentes habituelles. C'est un beau spectacle. Le central était magnifique. L'ambiance était bonne, malgré un maximum de 5000 spectateurs. Donc, bravo, et c'est un bilan positif.
Et on apprenait aussi dans ce bilan-là que je pense que Tennis Canada, là, incluant le week-end, on attendait à peu près 50 000 personnes. C'est ce qu'on a eu, un peu plus même. Là. Donc, on aurait dépassé les attentes au niveau des fans dans les gardens. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Ouais. Et ce que j'aime aussi dans cette nouvelle-là, c'est que ça prouve que pour ceux qui pensent que c'est juste un happening puis qu'il y a du monde qui vont voir le tennis juste parce que c'est un gros happening, ben, la preuve, c'est que le monde va voir du tennis pour le tennis, parce qu'il n'avait pas d'happening cette année. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que du tennis et les foules se sont déplacées. Et il y a un soir, j'ai essayé d'acheter des billets et c'était sold out. Il fallait trouver d'autres moyens d'acheter des billets. Alors, voilà, c'est une excellente nouvelle. Je pense que Eugène Lapierre, avec raison, était très satisfait. Et je tiens à souligner le travail de notre partenaire dans ce projet-là, Tennis Canada, qui a fait tout un travail pour présenter un tournoi. C'est un miracle ce qu'ils ont pu faire cette année. Ils ont changé les couleurs du tournoi aussi. Tu sais, Hugues, tu as travaillé là-dedans. Ça demande beaucoup d'efforts, de changer les couleurs d'un tournoi.
C'est un travail colossal. Nouvelle identité de marque, nouveau branding. On a vu encore cette année l'attachement fondamental que le public montréalais a avec son tournoi. T'en parlais un peu, Alex. C'est plus, on dit souvent que c'est plus qu'un happening sportif, mais cette année, tout ce qui enveloppe le tournoi n'était pas présent. Donc, les gens sont allés vraiment pour le tennis cette année et tu avais une foule qui était la plus grande qu'on pouvait accueillir dans le cadre du protocole. Donc, ils ont fait un travail génial. Et effectivement, avec une petite équipe, parce qu'on sait que Tennis Canada ont réduit leur équipe durant la pandémie. Ils ont réussi à livrer un tournoi de calibre international. C'est génial.
Mais même les gars, oui, il y a le contexte COVID, il y a l'idée de se refaire une marque, se refaire un nom, mais j'ai envie qu'on parle aussi du concret. Les chasseurs de balles, les responsables de l'entretien. Toute la semaine, on a parlé de la météo, de la chaleur, de la pluie, à quel point c'était difficile pour les joueurs. Mais imaginez, la chaleur est la même pour les chasseurs de balles, dans la mesure où je trouve qu'ils ont tellement bien géré ça. On a parlé notamment avec le responsable, Nicolas, l'autre jour, du travail des chasseurs de balles, mais même de l'entretien, des arrêts de pluie qui ont duré longtemps, mais les responsables, les bénévoles, les employés en entretien ont fait un travail colossal, ce qui nous a permis, malgré une température extrêmement capricieuse, d'avoir un tournoi qui s'est terminé dans les délais. Je pense que c'est important aussi de leur lever notre chapeau.
Et puisqu'on y est, soulignons aussi le travail de nos collègues médias, notamment à TVA Sports et Sportsnet. Là, je pense à la journée qui a terminé à 1h30 où les gens de TVA Sports ont dû être en onde pendant 13-14 heures. Là, et je peux vous dire, moi, j'ai écouté le match de Daniel Collins, je l'ai écouté jusqu'à la fin. Parce qu'on est des fans de tennis, que voulez-vous? C'est ça qu'on fait, on se couche tard pour écouter du tennis. Et Félix Séguin et Marie-Ève Pelletier, parce que c'est eux que j'écoutais, là, j'écoutais pas Sportsnet, étaient encore, je vais le dire comme ça, sur la coche à 1h30 du matin. Alors bravo à mes collègues et merci aussi à tous ceux qui sont venus en interview avec nous. On pourra en reparler en fin d'émission. Là. Passons du côté des hommes. Nico, tu as vu ça comment, ce tournoi-là, commentaire général?
Je l'ai vu de deux façons. À la fois surprenant, mais prévisible. Je ne sais pas si vous comprenez, dans la mesure où...
C'est une déclaration, Nico?
Mais non, mais dans le sens où, oui, il y a eu plusieurs surprises. T'sais, juste la présence d'Opelka en finale, c'en était une. La déception de nos Canadiens... Mais ultimement, qui sort du lot? Medvedev, Tsitsipas. Oui, on a beau souhaiter du renouveau, on a beau souhaiter des surprises, des histoires Cendrillon comme Georgie, mais ultimement, chez les messieurs, le top 5 est tellement solide, le top 5 est tellement constant, c'est difficile. T'sais, on avait dit Nadal, Alex et moi, pour l'emporter, je pense eux que tu avais parié sur Medvedev. C'est difficile de prendre un autre chemin. Et ça a été encore le cas cette semaine à Toronto. Oui, Opelka a bien joué, superbe tournoi, puis je pense que pour lui, pour la suite des choses, ce sera bénéfique. Mais le meilleur joueur sur la planète, c'est Medvedev présentement, et il n'y a personne qui peut le battre, et même Tsitsipas a été difficile à battre tout le long du tournoi. Donc oui, on veut des belles histoires, des histoires inattendues, des histoires Cendrillon, mais les meilleurs sont les meilleurs, tout simplement.
C'est-tu quoi, j'ai ri de ta façon de dire les choses, mais maintenant tu l'as expliqué, Nico. Ouais. Ça tient la route, ce que tu dis. Ça tient la route. Commentaire général, Hugues, sur ce tournoi, et après ça, on écoute Medvedev.
un peu la même chose. Donc, déception quand même là, pour nos Canadiens qui sortent d'entrée de jeu. On peut pas passer à côté. C'est une déception. J'ai hâte de voir ce qu'ils font à Cincinnati. C'est la préparation du US Open se poursuit. Mais aussi, comme dit Nico, on retrouve dans le dernier week-end les joueurs qui devaient être là, sauf peut-être Opelka, mais qui montent dangereusement au classement. Là. Donc, c'est un gars qui est sur une belle lancée. C'est pas un hasard s'il est là. Il est très jeune aussi. Donc, Mehmet Vedev, le tacticien calme qu'on connaît, qui trouve une solution toujours. La finale qui a paru assez simple pour lui, en fait. Autant Tsitsipas a eu l'air stressé, angoissé, de se dire « mais comment je vais le breaker? » Puis il a pété une coche à la fin du deuxième set, vous vous en souvenez. Finalement, il a perdu le match en 3-7 contre Opelka. Medvedev a fait ça comme le champion qu'il est. Donc, un tournoi quand même assez prévisible pour moi, sauf les Canadiens. Je suis d'ailleurs assez content de mon résultat au jeu des prédictions, j'en parle. J'ai fait 101 points parce que je suis allé avec la logique du classement du début à la fin. Et ça m'a pas trop trompé, à part pour Félix et Denis un peu au début. Puis j'ai fait un bon score grâce à Medvedev et Tsitsipas.
Et là, Hugues voulait dire à tout le monde qu'il avait le meilleur score de l'équipe. Et de loin, disons-le.
C'est juste pour s'affronter, dans le fond.
101 points.
Et c'est même pas proche. Moi, j'étais à 60 et Nico, on n'en parle même pas.
Quoi?
On va laisser ton score silencieux.
Je vous entends pas encore une fois. C'est bizarre que mon cadeau est resté momentanément.
Parlant d'entendre, messieurs, on va aller entendre Medvedev après sa victoire en finale en français. On lui a posé des questions sur son match. On lui a posé des questions aussi sur la place du numéro un mondial. Est-ce qu'il commence à l'avoir à l'œil? Vous allez voir, sa réponse est intéressante. Et je lui ai posé une question sur ce nouveau trophée qui était juste à côté de lui, à savoir comment il le trouvait. Voilà.
Bien sûr, et Montréal reste jusqu'à là le seul final de Master 1000 que j'ai perdu. Donc, je vais avoir vraiment envie de revenir là-bas et d'essayer de gagner ce tournoi parce que, effectivement, tu ne peux pas gagner tous les tournois du monde, c'est presque impossible, mais je veux essayer de gagner le plus possible, surtout sur dur, parce que sur d'autres surfaces, c'est un peu plus dur pour moi en ce moment-là, jusqu'à là. Donc, je suis très content que j'ai, on va dire, ramené une trophée de Canada. Ça fait encore un Master 1000. Je pense que si on parle des tournois de dur, il me reste que Indian Wells et Miami. C'est pas mal déjà. Donc, je suis juste très content. Je pense pas trop, mais je sais que si je fais bien, je peux devenir. Après, je vais être très honnête, autant si je le fasse sans gagner un grand chelem, c'est toujours une rêve de l'enfance fait. Autant c'est mieux si tu veux avoir au moins un grand chelem dans ton sac avant de devenir numéro 1. Je pense que c'est pour tout le monde à peu près pareil. Genre, tu vas être très, très content. Tu vas dire il manque quand même le grand chelem. Donc, j'espère que soit ça va enchaîner par ça. Oui, là, je n'ai pas plus à dire. Mais après, il faut très bien jouer. Il faut gagner beaucoup de tournois. Quand tu as un mec comme Novak qui gagne trois derniers grands chelems, ce n'est pas très facile de devenir numéro 1 mondial.
Go ahead, Alexander.
Daniel, Alex du podcast sur la ligne avec Tennis Canada. Le trophée que tu as à côté de toi, c'est un tout nouveau design de trophée et tu es le premier à le remporter. Je suis curieux de savoir comment le trouves-tu.
J'aime bien. Je ne sais pas de quel métal il est fait. Est-ce que c'est au rose? J'imagine que non quand même. Mais il est très beau. C'est deux raquettes, je pense, un peu avec... Le cordage et balle de tennis au milieu, j'aime bien. Ça va faire encore un petit truc dans mon, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais où il y a tous les trophées et ça va être très bon.
Ouais, un beau trophée à ajouter à sa collection qui est déjà bien garnie, particulièrement à Masters Mill. Il soulignait avec raison qu'il lui manque que Indian Wells et Miami comme Masters Mill sur dur et ben. Il ne faudrait pas se surprendre de le voir remporter ces tournois-là plutôt que plus tard. Là, il est certainement un candidat. Nico, tes impressions sur Medvedev?
Ben, moi, c'est en dehors du terrain. On dirait cette semaine que j'ai appris à redécouvrir mon Daniil. Oui, on le voit en conférence de presse. Oui, on l'a vu après les matchs, dans les entrevues. Tu sais, un gars sûr, parce que malheureusement, on n'a pas la chance beaucoup de l'entendre en conférence de presse là, quand il fait des tournois en Europe ou enfin. Et cette semaine, on dirait, j'ai appris à découvrir un Daniil très loquace, très serein, très terre à terre. Oui, parfois, s'engueule après les arbitres. Oui, parfois, peut être très dur envers lui-même et avec ses adversaires. Mais quel type charmant qui s'adresse en français. Vraiment, tu sais, Hugues parle souvent d'athlète marketable. Daniil Medvedev, c'est pas ma découverte de la semaine, mais j'irais mon coup de cœur sur le plan personnel, sur le plan des communications, sur le plan de l'image. Chapeau à Daniil Medvedev.
Oui, quand tu dis qu'il est marketable, tu penses-tu qu'il peut aller chercher un peu plus en Amérique du Nord que peut-être certains autres Russes parce qu'il est plus sympathique?
Assurément. Pour une marque qui a un profil justement international, je pense qu'il soit quand même assez segmentant, comme on dit en marketing. Il ne parle pas une clientèle extrêmement large, mais pour une marque qui cherche un match sur une marque globale, internationale, un profil international, Medvedev est très bien. Mais ce gars-là, encore une fois, pour son intelligence, c'est un polyglotte, hein. Il parle je ne sais pas combien de langues, 5 au moins si ce n'est pas plus. Il est drôle, il est émotif, il dit ce qu'il pense. Moi, je pense qu'il est très bon pour le tennis. Vous savez à quel point j'adore ce garçon au niveau tennistique. Là, je pense que c'est un numéro un potentiel. Puis je pense que Novak a un Medvedev sur sa route pour son grand chelem cette année. Ça va être quelque chose à voir au US Open. Donc, Medvedev, très bon pour le tennis. Oui, bien sûr, vraiment très marketable aussi.
Bien, je pense qu'il est le principal candidat à mettre fin à la série de Novak Djokovic. Ah, ouais. Bon, théoriquement, il ne devrait pas être dans la même partie de tableau. Là.
En finale.
C'est ça. À moins de... Je ne vois pas
non, comment non, ça va arriver. Non, non, ça va être la finale,
Je ne vois pas comment ça peut arriver. Mais oui. Voilà, il est certainement candidat. Il a fait la finale. Et si on revient d'ailleurs à la finale qui nous occupe à Toronto, bon, je pense qu'Opelka, c'était une belle histoire, mais c'est souvent comme ça dans le monde du tennis. La belle histoire ne remporte jamais le tournoi et cette année n'a pas fait exception, Hugues.
Ouais, ben Medvedev, comme je le disais plus tôt, en plein contrôle. Là où Tsitsipas était hyper nerveux, angoissé, stressé de breaker Opelka. Pour Medvedev, il n'y a pas eu de problème, plein contrôle, 6-4, 6-3. Il y a eu une bonne répétition contre Eisner en demi-finale, donc il savait comment gérer un service d'un gars qui fait presque 7 pieds. Donc, c'était une suite de matchs parfaite pour lui. Donc, Opelka, mais attention, il monte au classement. Là. C'est un des plus gros movers cette semaine. Il est rendu au 20, je ne l'ai pas devant moi ici.
Je vais te sortir...
S'il te plaît. Donc, je pense qu'il a monté d'une dizaine de positions cette semaine. C'est un gars qui est dans le début de la vingtaine. Donc, je pense qu'il est promis à monter encore un petit peu plus. Ce n'est pas qu'un service, ce gars-là. Il a démontré qu'il avait des bonnes volées, un très bon revers, un bon sens tactique. Donc, Opelka, c'est une belle semaine. Je ne pense pas que c'est pas une erreur. C'est pas un feu de paille. On va le revoir au plus haut niveau, je suis convaincu.
Alors, il est rendu 24e.
Voilà.
Riley Opelka. Et bon, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une belle histoire. Riley Opelka, et si plusieurs le définissaient comme simplement un gros serveur, d'ailleurs, on en a parlé cette semaine. Je pense pas que tu atteins la finale d'un tournoi comme ça si tu n'as qu'un service. Ça, c'est impossible. Et John Isner en a parlé. Et tu voulais dire Opelka, c'est quand même un gros bond là, au classement.
Il monte de 10 positions au classement cette semaine. En fait, il est rendu au 22e rang. Donc, il passe devant Miloš Raonic. C'est la plus grosse ascension de la semaine, là, Opelka, avec 10 positions de plus.
Alors, ben voilà, messieurs, ça a été encore une fois un tournoi spectaculaire. Dommage pour les Canadiens. Je vous demande, en terminant notre couverture sur ce tournoi-là, coup de cœur du tournoi, Nico, je commence avec toi. Ça peut être coup de cœur avec un S, hein, les gars. Je vous offre une panoplie de trucs.
Ouais, mais je trouve ça difficile dans notre position de dire autre chose que Rebecca Marino, parce qu'on la suit, parce qu'on veut tellement qu'elle gagne, parce qu'on veut tellement, avec l'histoire qu'elle a eue, le parcours qu'elle a eu, on souhaitait... En fait, c'est faux de dire qu'on souhaitait qu'elle gagne parce que on met tellement l'attention ailleurs. Parce que oui, tu sais, oui Bianca, oui Layla, oui Dennis, oui Félix... Et parfois, à tort, on met Rebecca un peu de côté. Mais il ne faut pas, même si elle est 229e ou je ne sais plus où elle est rendue dans le classement actuel avec la nouvelle semaine. Mais quelle histoire, quelle dame impressionnante, quelle dame chouette à suivre. Puis je suis tellement content pour elle que d'autres gens que le milieu fermé du tennis puissent la connaître, qu'elle se soit révélée au grand jour cette semaine. C'est formidable. Peut-être qu'elle ne connaîtra aucun autre succès, mais au moins cette semaine, à Montréal, aurait été magique. Et pour Rebecca Marino, c'est que du bonbon. Chapeau. Bravo.
Hugues, coup de cœur.
À Montréal, je vais prendre Rebecca aussi parce qu'on est tellement content de l'avoir à ce niveau-là. Elle fait une superbe semaine, elle gagne 2 tours. Puis je pense que ça va lui donner un nouvel élan pour la deuxième phase de sa carrière. Mais Camila Giorgi, écoute, 71e mondial, je pense qu'il y a un déclic qui s'est fait au niveau de son jeu. Cette fille-là peut battre n'importe qui. Là. Puis il y a une semaine, je la suivais sur Instagram, je savais c'était qui à peu près. Mais là, tout d'un coup, je dis « Wow, quelqu'un qui frappe si fort, si tôt ». Qui joue avec une énergie débordante du premier point au dernier point. Donc, c'est mon vrai coup de cœur au final, c'est Camila Giorgi. Chez les hommes, ben moi, ça fait juste renforcer mon admiration pour Medvedev. À chaque semaine, il y a quelqu'un qui a crié dans la foule à Toronto, « I want more Daniil ouais. ». Et durant la conférence de presse, il dit « Je pense qu'il n'y a personne qui m'a dit ça, sauf ma femme ». Ça m'a vraiment fait rire, encore une fois. C'est un gars qui a un sens de l'humour. Donc, j'adore Medvedev. Donc, Medvedev à Toronto. Continue, Daniil, c'est super.
Puis, c'est pas un gars qui sort la cassette, Daniil Medvedev. Il l'a même dit en conférence de presse. Il dit, moi, je réponds ce que je pense. Puis, si j'ai pas envie de répondre, je vais simplement éviter la question. Ouais. Mais autrement, je vais dire ce que je pense. Et ça, je trouve ça rafraîchissant, honnêtement, de la part d'un des plus grands athlètes au monde. Ouais. Ça, c'est certain. Moi, mon coup de cœur, messieurs, si vous... on peut pas passer sous silence, Rebecca Marino, mais Gabriela Dabrowski, quand même, qui est championne en double, je pense qu'il faut pas l'oublier. Elle a été sympathique, elle est championne à la maison. Et mon autre coup de cœur, moi, du côté des hommes, je vais y aller avec John Isner, parce que, c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps et j'ai trouvé ça intéressant qu'est-ce qu'il a dit cette semaine. Il dit, tu sais, vous parlez beaucoup des Tiafoe, des Taylor Fritz qui s'en viennent et tout ça, mais c'est encore au moment où on se parle le meilleur joueur américain. Et il ouais. a dit, je tente de rester. Ben, en fait, là, Riley Opelka a-t-il passé devant lui? Il faudrait que je revoie le classement, là. Mais enfin, il est quand même parmi les meilleurs joueurs américains et il a dit, c'est une motivation pour moi de rester devant les jeunes Américains qui s'en viennent. C'est un vieux routier, c'est un gars super sympathique, John Isner, c'est un gentil géant. Alors pour moi, il a été un coup de cœur cette semaine ouais. à Toronto et Gabriela Dabrowski à Montréal, sans oublier évidemment Rebecca Marino. Alors, coup de cœur, messieurs. C'est dit, c'est fait. On a une mission pas mal chargée, messieurs, aujourd'hui. Là, je veux qu'on revienne sur une affaire qui a fait pas mal jaser. Et Hugues, it's your time to shine. La pub de Maxi. Nico, est-ce que tu as vu la pub de Maxi avec, avec Félix et Aliassim? Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, j'explique le contexte et je vais faire commenter Hugues là-dessus. Parce que c'est une pub qui a fait polariser beaucoup. Alors, on est dans une conférence de presse, visiblement organisée par Maxi. Et à la suite de la défaite de Félix Auger-Aliassime, on annonce qu'on retire le commanditaire Maxi de Félix Auger-Aliassime parce qu'ils ont une politique de prix imbattable. Et comme Félix a été battu, ben, ils ne peuvent plus commanditer Félix. Et là, Félix, visiblement, s'est prêté au jeu, le fait avec un certain sourire, avec Martin Matt. Alors voilà, c'est ça le contexte. Et on l'a joué presque back-to-back, la première publicité à la défaite de Félix en ondes. Et on l'a revu à quelques reprises par la suite. Ça polarise beaucoup. Moi, j'avoue, personnellement, j'ai trouvé ça sympathique et je trouvais pas que ça le faisait mal paraître. Hugues, t'es plus mitigé par rapport à ça.
Je pense que Maxi a fait un très, très bon coup. D'un point de vue marketing, pour moi, c'est un succès. La politique imbattable, de prix imbattable, point final. Donc, c'était une bonne idée de commanditer un joueur. Mais ce qui est, là où ça cloche un peu pour moi, c'est que Félix a perdu au premier tour. Et là, ça le faisait mal paraître un petit peu. Tu sais, s'il avait perdu, s'il avait passé 1 tour, 2 tours, là, tout d'un coup, on retire notre commandite, on va sourire. Mais là, on n'a pas le goût de sourire, là. Il perd au premier tour ou à son premier match. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc, je pense que Félix était doublement perdant quand on voyait Martin Matt qui disait, on est désolé, on retire notre commandite. Donc, moi, ça m'a fait un peu mal, en fait, pour Félix de voir cette façon de se terminer là si vite. Je pense que lui-même, ne pensait pas perdre à son premier tour, à son premier match. S'il avait, encore une fois, passé 1 tour, 2 tours, 3 tours, ça aurait été vraiment drôle, puis là, tout le monde aurait rigolé. Mais là, je pense qu'il devait rire jaune un peu quand, dès le premier match, en plus, là, il vient de perdre chez lui au Canada, on retire la commandite. Donc, c'était un peu la tête de Turc, là, si je me permets. Donc, un peu dommage pour Félix, mais très bon pour le marketing de Maxi.
Donc, toi, si t'étais sur l'équipe, OK, j'avais pas compris ça quand on en avait parlé hors d'onde. Si ça avait été sur l'équipe marketing, t'aurais dit, on le fait de cette manière-là, oui. Ça va fonctionner. Oui.
Si j'avais été l'agent de Félix, j'aurais peut-être dit non.
Intéressant.
Mais chez Maxi, bravo. Et tout le marketing est excellent en passant. Et je pense que ce stunt-là, durant le tournoi, c'était une très bonne idée marketing.
Moi, j'ai pas trouvé, OK. Je comprends que ce que tu veux dire, je comprends que la réception que certaines personnes peuvent avoir, moi, personnellement, j'ai plus vu Félix bon joueur là-dedans, sans que ça le fasse trop mal paraître. Je suis d'accord avec toi, ça aurait été encore plus drôle s'il avait perdu 2 ou 3 matchs. Mais en même temps, je veux dire, les 99% des joueurs perdent à chaque semaine. Alors, on savait que cette publicité-là n'allait pas avoir une durée de vie de plus qu'une semaine, oui, au maximum.
Mais quelques tours quand même,
ouais,
quelques jours.
Oui, quelques tours. Quelques tours. Nico, t'as pensé quoi, toi, de cette publicité-là? Est-ce que tu as trouvé que ça a fait, pas nécessairement mal paraître, mais en tout cas, c'est un bizarre de timing dans le contexte ben, pour...
Oui, Hugues l'a dit, coup de maître de Maxi, mais moi, ce qui m'a étonné, dès que j'ai vu la première publicité, au début de la semaine, ce qui m'a étonné, c'est que les gens de l'entourage de Félix l'aient encouragé, ou du moins qu'aient accepté cette offre-là. Pourquoi? Parce que Félix, depuis le début de la saison, c'est des hauts et des bas. Parfois, fait 3 tours, mais pendant 3 semaines consécutives, perd au premier tour. Je ne sais pas si tu t'étais appelé Daniel Collins, qui était sur une séquence de 12 victoires consécutives. Si tu étais Medvedev, ou tu étais pratiquement assuré de faire 2, 3, 4 tours. Mais dans le cas de Félix, il y avait un risque que ça arrive, une défaite au premier tour, un fort risque avec la saison qu'il connaît et avec les Olympiques qu'il venait de connaître. Donc oui, peut-être que Félix s'est mis dans une mauvaise position. Peut-être que ça a mal paru, mais ils avaient le choix de dire non. Et ultimement, ils ont pris la décision de dire oui. Et c'est ça que j'ai de la misère à m'expliquer, à comprendre, vu la saison de Félix. Et on le sait, les ennuis qu'il a lorsque ça compte, ou du moins lorsque il est sur la sellette. Et là, ben, ça n'a pas été payant pour lui. Puis c'est ce qui m'étonne le plus.
Est-ce qu'on peut ressortir cette pub-là à chaque tournoi, Hugues?
Non, parce que c'est l'effet surprise qui la rend intéressante aussi. Là. Donc là, après, il gagne 2 tours, 3 tours, ça va se fatiguer très vite. Là. Je pense que c'était bon pour un tour, 1K, 4 de canne. Ils l'ont fait. Bravo, Maxi. Puis on passe à autre chose.
S'ils remportent un tournoi, est-ce qu'ils ont un scénario prévu pour un retour de la commandite?
Si j'étais l'agent de Félix Auger-Aliassime, je m'organiserais pour que ça se passe. Parce qu'il y aurait une rédemption à ce moment-là. Et là, imbattable point final, ça devient le fun pour tout le monde.
Moi, écoute, je suis pas dans le secret des dieux, puis c'est vraiment pas mon département. J'ai l'impression qu'ils ont prévu ce scénario-là.
Je souhaite.
Puis s'ils l'ont pas prévu, on va le prévoir pour vous. Vous allez juste nous envoyer un petit chèque pour l'idée, puis on va s'arranger bien facilement. C'est bon. Alors, intéressant. C'est pour ça qu'on a un expert marketing avec nous. Il apporte toujours son input.
Ça me fait plaisir.
Ah, pardon?
Ça me fait plaisir.
Oui, oui, on parlait pas de toi, Nico, je suis désolé. Mais.
Parfait.
Ah, voilà. C'est... Mais, ben, écoute, si jamais, Nico, tu veux poursuivre étant expert en marketing, je connais un bon mentor pour toi. Il s'appelle Hugues. Je te donnerai son nom de famille un peu plus tard, si jamais tu veux. Messieurs, regardons qu'est-ce qui va se passer cette semaine à Cincinnati parce que, bon, c'est déjà le début d'un autre tournoi. Commençons avec les femmes puisque Leila Annie Fernandez s'est qualifiée à Cincinnati. Est-ce qu'on va voir un parcours un peu plus long selon vous, les gars? Je commence avec Nico.
Je pense que oui. Leila, c'est une guerrière, c'est une battante. Combien de fois on le dit? À maintes et maintes reprises, c'est une fille qui a du caractère. Probablement, oui, on parle de Bianca, mais je pense que Leila a un peu plus de caractère, de bon caractère. Et je pense que ça va se faire paraître dans le prochain tournoi. Il faut, parce qu'avec la prestation qu'elle a donnée à Montréal, oui, c'est décevant. Elle a laissé beaucoup de gens sur la fin. Il faut que ça aille bien pour Leila. Puis, tu sais, ultimement, même si ça ne fonctionne pas, elle est toute jeune. Fait, il y aurait des passes comme ça, il y aurait des moments comme ça. Est-ce que c'en est un? Peut-être. Mais ultimement, elle a besoin de ces moments-là pour grandir. Et ben, c'est que de l'apprentissage. Donc, je ne pense pas que ce soit mauvais ou bon. Le fait qu'elle soit là, tant mieux. Elle joue des matchs. Si elle peut gagner, tant mieux. Mais en bout de ligne, ce n'est pas la catastrophe.
La bonne nouvelle, c'est qu'elle rentre avec un certain rythme parce qu'elle a dû se qualifier. Là. Elle n'a pas eu un laissez-passer. Elle va affronter Alison Risk, qui n'est pas une mauvaise joueuse américaine. C'est quand même très prenable là, pour Leila Annie Fernandez. Tu attends quoi de Leila cette semaine?
Ben, un, c'est le fun. Elle rentre avec un rythme dans le tableau, comme vous le dites. C'est ce que Tifao a fait à Shapovalov, by the way, la semaine dernière, comme Lucky Loser. Mais Leila, 18 ans, rappelons-le encore une fois. La progression se continue. Moi, je pense qu'elle va continuer de monter au classement de façon régulière. Je m'attends à ce qu'elle passe quelques tours cette semaine. Donc, tout va bien sur ce côté-là. Mais pour Cincinnati, je suis surtout heureux de voir Ashley Barty et Naomi Osaka de retour. Hâte de voir si elles vont faire honneur à leur position de 1 et 2 sur le tableau. Mais c'est tellement ouvert du côté féminin, comme on le dit à chaque semaine, c'est pas garanti. Mais très hâte de voir quelle performance elles vont sortir à quelques semaines du US Open.
Et je veux dire qu'Abraham nous laisse une petite note dans le background pour dire que s'il fallait qu'elle passe le premier tour, ce serait possiblement Azarenka au deuxième tour. Et ça, messieurs, c'est une lourde commande pour la Canadienne. Bianca Andreescu est dans ce tableau-là également. Pour l'instant, elle n'est pas longtemps qu'elle se retire. Est-ce qu'elle va jouer? Est-ce qu'elle ne va pas jouer? Si elle joue, c'est une excellente nouvelle. Ça voudrait dire que ce qu'on a vu à Montréal, c'était peut-être intolérable sur le coup presque. Il faut rappeler qu'elle a quand même terminé son match, Bianca, là, mais elle l'a terminé en douleur, là, et elle l'a dit. Ouais. Et elle a dit que peut-être dans un autre tournoi, elle se serait retirée, mais elle est tannée de se retirer.
Ouais.
Moi, je pense que peu importe ce qui va arriver, il reste possiblement deux gros tournois. Là. Elle va les jouer malgré la douleur. C'est mon feeling à moi. Peut-être que je me trompe. Je veux dire, si une partie de la saison en Asie est annulée, il n'en reste pas long à la saison. Alors, je pense qu'elle va jouer peut-être malgré la douleur. On verra. On va suivre également les Canadiens puisque Shapovalov et Félix Auger-Aliassime sont également à Cincinnati du côté des hommes. Hugues, est-ce que tu veux faire un petit résumé des matchs à surveiller?
C'est un gros tournoi au niveau Masters 1000. Encore une fois, les match-ups qui sont toujours imprévisibles, mais il n'y a pas de mauvais match-up au premier tour. Regarde, Daniel Evans contre Schwartzman pour commencer. Donc, c'est vraiment intéressant. Gasquet Murray, je n'ai parlé. Sinner Delbonis, même pour Sinner qui va très bien, c'est pas gagné. Donc, écoute, tout ça s'enchaîne. Là, je pense que ça va être un début de semaine. Si vous n'avez rien à faire en début de semaine, vous branchez sur ATP Tennis TV ou RDS qui présente cette semaine. Il va y avoir plein de bons matchs. Les deux Allemands, Jean-Lennard Struff contre Kopfer, qui avait presque battu Federer à Roland-Garros. Ça va être intéressant. Donc, plusieurs bons match-up pour commencer.
Ouais, du côté des femmes, là, il y a beaucoup de match-up explosifs en ce premier tour. Ouais. Là, avec Krejcikova contre Kazatkina, Kvitova contre Madison Keys. On parle d'une championne de Grand Chelem contre une finaliste de Grand Chelem. Sakkari, peut-être une future championne de Grand Chelem, peut-être une future numéro 1 mondiale contre Angélique Kerber. Ouais. Beaucoup de matchs assez spectaculaires en ce début de tournoi. Et on le mentionnait un peu plus tôt, Félix Auger-Aliassime contre Fukovic. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est prenable au premier tour, certainement, mais ça pourrait être compliqué. Alors, beaucoup de matchs de premier tour assez explosifs aujourd'hui à Cincinnati. Alors, on va garder un œil sur ce tournoi-là, messieurs. Ça, c'est certain. Un dernier commentaire, messieurs, avant qu'on termine l'émission sur Federer. Hugues, est-ce que ça sent la fin de l'annoncer qu'il allait subir une opération?
Oui. Moi, je pense que la deuxième opération, plus les réhabilitations, je pense qu'on ne reverra plus Federer au plus haut niveau. Je voyais qu'il était rendu au 9e rang cette semaine au classement ATP. On va le voir sortir du top 10 dans les prochaines semaines et on ne le reverra plus dans le top 10. Donc, c'est triste, c'est la fin d'un grand champion, mais je pense pas qu'avec la période de réhabilitation, il va revenir au plus haut niveau. Puis Federer ne voudra pas revenir comme un joueur de second plan, là où il va jouer un tour, deux tours peut-être, parce qu'il a vraiment un talent supérieur à la plupart des joueurs, mais physiquement, il pourra plus suivre le coup.
Nico, est-ce que c'est la fin pour Federer qui doit subir une opération?
J'en ai parlé à mon ami Francis qui nous écoute, mon fidèle cobaye, pas cobaye, camarade, du cobaye. Je pense, et on est d'avis là-dessus, que le prochain Wimbledon sera le dernier tournoi de Roger. Je pense, comme tu l'as dit, Hugues, Federer, c'est pas genre un peu comme Tom Brady, il ne jouera pas les seconds cavaliers. Il va être là pour gagner, sinon c'est terminé. Il n'a plus rien à prouver. Et je pense que de finir sans roi et maître chez lui à Wimbledon, je pense que ce sera son dernier tour de piste. Tu sais, je ne pense pas qu'il va faire, évidemment, l'Australie. Il ne fera pas Roland-Garros. Je pense qu'à Wimbledon, il va l'annoncer peut-être une semaine ou un mois avant. Il va dire, ce sera mon dernier tour de piste. Gagne-père. Tu sais, je ne pense pas qu'il remporte un autre grand chelem, malheureusement. Là, j'ai dû me faire à l'idée. Mais je pense que pour lui, pour le monde du tennis, ce serait bien d'avoir une annonce pour qu'on puisse préparer cette cérémonie, de préparer cette sortie. Je pense pas qu'il va dire après une énième blessure, bon, j'arrête. Je pense qu'il faudra faire de quoi de mémorable, de névralgique. Et je pense que ce sera la fin au prochain Wimbledon pour Federer.
Je te demande pas qu'est-ce qu'on surveille cette semaine parce qu'on vient de le faire. On va surveiller Cincinnati, c'est ça le gros tournoi. À moins que tu voulais ajouter quelque chose?
Ben, je veux dire encore une fois merci à Eugène Lapierre et toute l'équipe de Tennis Canada pour ce qu'ils nous font vivre cette semaine. J'étais avec mon épouse mardi soir au match et je me dis, hey, on est ici avec 5000 personnes, un beau soir d'été, un beau spectacle international. Merci à toute l'équipe d'avoir réussi à faire un tournoi couronné de succès encore cette année. On est très contents.
Oh, et messieurs, avant de vous laisser partir, je veux rappeler notre concours avec l'Hôtel Montville. On fait tirer une nuitée. Pour participer au concours, c'est pas compliqué. Il faut s'abonner à notre page, partager le concours et dire dans les commentaires avec qui vous voudriez cette nuitée-là à l'Hôtel Montville à Montréal, qui est en plein cœur du centre-ville, hyper bien situé. Vous allez pouvoir, si vous le voulez, assister à la diffusion du podcast. On fait ça à la bonne franquette, mais ça nous fera plaisir de rencontrer des gens qui nous écoutent. Et donc, ben voilà, je vous invite sur notre page Facebook à partager, je le rappelle, inscrire dans vos commentaires avec qui vous voudriez venir et partager la publication. Hugues, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter?
Ben non, tout est dit, mais encore une fois, on capte l'émission ici à chaque semaine et on est aussi ici parce qu'on aime beaucoup cet hôtel, donc on espère vous rencontrer très prochainement, participer au concours. On vous verra très bientôt.
Et Nico, je t'annonce que tu ne peux pas gagner le concours, mais je t'invite quand même à participer au concours.
Mince alors, mais oui, certainement que je partagerai la bonne nouvelle, évidemment.
Je rappelle qu'on est sur la ligne, le podcast, l'émission radio officielle de l'Omnium Banque Nationale. On est diffusé sur toutes les plateformes audio de Balado, c'est-à-dire Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec, etc. On est également diffusé au 91.9 Sport tous les lundis soirs à 20h. Avant qu'on se quitte, messieurs, Abraham, notre gestionnaire de médias sociaux, nous annonce ses prédictions. Zverev pour champion du côté des hommes et Sakkari du côté des femmes. Alors voilà, c'est dit. Nico, ça nous a manqué cette semaine. On a pallié comme on pouvait pour faire le mot de la fin, mais c'est jamais comme quand c'est toi qui le fais. Alors je t'offre pour la première fois en quelques jours ton traditionnel mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.